Théâtre, livre, littérature, musique, peinture, expo, culture, transversale.
Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices de Transistor. Les plus fidèles et les plus anciens d'entre vous auront sans doute reconnu le titre de notre émission dédiée à l'actualité artistique sur Transistor, Transverse Art. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouvel épisode consacré à une manifestation d'art plastique à Lyon, Rendez-vous 2017. Créé en 2002, parallèle à la Biennale d'art contemporain, l'événement se déroule à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne et accueille sur toute la durée de la Biennale, jusqu'au 7 janvier, une sélection de 20 jeunes artistes contemporains, français et internationaux. Lors de notre visite, nous avons pu nous entretenir avec Charlotte Morel, responsable des publics, ainsi qu'avec plusieurs artistes face à leurs œuvres, Marion Robin et Éléonore Panot-Zavaroni d'une part, deux jeunes artistes françaises exposées ici dans une même salle, et Sinzo Anza, artiste congolais. Vous retrouverez au cours de cet épisode leurs voix mêlées, qui parfois se font écho, pour éclairer leur création mais aussi les enjeux spécifiques d'une telle manifestation. Vous pourrez également entendre des lectures et des extraits sonores recueillis au fil de la visite. Nous commençons donc cet aperçu dans un recoin du parcours où Charlotte Morel nous présente un peu plus en détail le projet.
Que ça, passer votre temps au téléphone pour emmerder.
Une lettre manuscrite, format A4, il y a deux pages.
Alors j'ouvre une lettre, lettre verte, dans dont l'expéditeur est Martial. Et la lettre consiste en une page A4, un texte imprimé, écrit à l'ordinateur. À l'attention du visiteur de l'exposition Rendez-vous, Institut d'art contemporain de Villeurbanne, 11 rue du Docteur Dollard, 69100 Villeurbanne.
Bonjour Charlotte Morel, vous êtes responsable des publics à l'IAC. C'est l'édition 2017 de Rendez-vous. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, cette invitation et cette exposition ?
Bonjour, oui, Rendez-vous, c'est un projet qui est initié par quatre entités, quatre commissaires. On a la personne d'Emmanuel Thublou, qui est le directeur de l'École des Beaux-Arts de Lyon, Thierry Raspail, qui est le directeur des Biennales de Lyon, Isabelle Bertolotti, qui est conservateur au musée MAC de Lyon, musée d'art contemporain, et Nathalie Argineau, qui est la directrice de l'Institut d'art contemporain. Et donc ce commissariat collectif se réunit pour proposer tous les deux ans, donc en marge ou dans le parcours en fait de la Biennale d'art contemporain, une plateforme qui est dédiée à la jeune création internationale. Et donc il y a une sélection qui s'opère parmi 20 artistes internationaux. En général, il y a la moitié qui est issue des écoles d'art françaises, avec une prédominance sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et les 10 autres qui sont donc sur le conseil de commissaires, eux aussi invités de Biennale internationale, et qui donc adresse chacun un artiste international, ce qui donne en général une bonne représentativité de la jeune création artistique à l'instant T, enfin sur une année donnée. Donc là, 2017, on a un panorama qui s'étend évidemment donc de la France, de l'Europe, mais aussi qui va jusqu'en Indonésie, à Kinshasa, qui va en Nouvelle-Calédonie. Les pratiques aussi sont très diverses, qui est aussi le deuxième aspect du projet Rendez-vous, c'est qu'on a aussi un bon panorama des médiums artistiques en art contemporain aujourd'hui, ce qui donne une bonne aussi visibilité à de jeunes artistes qui ont pour la plupart encore pas vraiment de notoriété individuelle, qui participent à des expositions collectives et qui n'ont pas nécessairement encore d'exposition personnelle ou de galerie qui les représente.
Nous avons ensuite la chance de pouvoir échanger avec deux artistes exposés dans la même salle. Elles nous parlent de leurs œuvres, de leur rapport au spectateur et à l'exposition.
Bonjour Marion Robin et bonjour Éléonore Panot-Zavaroni. Merci beaucoup de nous donner un petit moment pour discuter de vos œuvres. On est en ce moment dans la salle numéro 3, c'est ça, de l'exposition. Alors si vous pouvez peut-être chacune dire un petit peu ce qu'on peut voir dans cette pièce. Éléonore.
Oui, bonjour. Alors, moi, je propose un ensemble qui s'appelle Hypothèse de rendez-vous et qui est constitué de deux pièces qui, pour l'occasion, sont indissociables, voilà, fonctionnent ensemble. Il y a une pièce qui s'appelle Déambulatio qui consiste en un grand miroir de un peu plus de 8 mètres de long et de 87 cm de haut, qui fait qu'on ne voit que ses pas lorsqu'on est dans l'espace. Évidemment, c'est aussi un moyen de proposer d'ouvrir l'espace à une autre dimension, puisque ça le double et le prolonge. Mais ça, on va peut-être plus en parler après, quand on parlera de comment nos pièces se rencontrent avec Marion. Donc voilà, là, ce qui m'intéresse, c'était d'exposer aussi la déambulation des visiteurs jusqu'à une correspondance avec le visiteur qui s'appelle Rendez-vous et qui est... un ensemble de lettres envoyées tout au long de l'exposition par une trentaine de personnes qui sont issues de mon réseau de l'amour, donc qui sont les personnes avec qui je travaille, j'échange, avec qui j'ai envie d'échanger. C'est une manière de se rencontrer, une première manière. Voilà, à écrire à l'attention du visiteur de l'exposition Rendez-vous à propos de leurs intentions intenses et de ce qui les travaille. Voilà.
On va y revenir. Et dans le miroir qui est posé, on voit aussi se refléter le sol. Et c'est là que tu es intervenue, Marion, sur le sol. Donc, si tu peux nous dire un peu ce qu'on voit.
Oui, bonjour. Alors, mes intentions, elles se sont dessinées en fait au contact du lieu. Parce que, comme d'habitude, je ne savais pas ce que j'allais... réalisé dans cet espace et pour moi c'est vrai que le White Cube est un espace toujours un peu compliqué et en fait finalement c'est un projet tout simple en fait, c'est-à-dire que c'est le plan du lieu qui est peint à l'échelle 1, voilà, et qui a fait l'objet de discussions et d'échanges avec la vie intérieure de l'IAC via la régie, etc. Puisque, en fait, on voit que certaines dimensions ont été corrigées, par exemple. Et ça, c'est le fruit d'un échange, en fait, avec l'équipe qui travaille ici.
Vous faites que ça, passer votre temps au téléphone pour emmerder les gens ?
Éléonore Panot-Zavaroni nous propose la lecture d'une des nombreuses lettres qui arrivent quasi quotidiennement à l'Institut d'Art Contemporain.
Alors j'ouvre une lettre verte, dont l'expéditeur est Martial. Et la lettre consiste en une page A4, un texte imprimé écrit à l'ordinateur. Alors, à l'attention du visiteur de l'exposition Rendez-vous, Institut d'art contemporain de Villeurbanne, 11 rue du Docteur Dollard, 69100, Villeurbanne. Le 31 août 2017. Cher inconnu ou cher inconnu, laisse-moi partager ton goût ou ton dégoût, laisse-moi combler ton désir. Tu penses peut-être que tu ne m'as rien demandé, mais tu te trouves là, en ce moment, à cet endroit précis, et je ne crois pas au hasard. Pardonne-moi cette façon si directe de m'adresser à toi, mais nous sommes seuls, et j'aimerais te donner la possibilité d'oublier les raisons de ta venue, que tu puisses te nicher dans un de ces recoins où il est encore possible de respirer. Écoute mon conseil, oublie cette lettre, et perds de vue ce qui t'entoure, car à présent, il te faut fermer les yeux, ne serait-ce qu'un instant, pour voir. Bien à toi, Martial.
Avant de retrouver un peu plus tard Marion Robin et Éléonore Panot-Zavaroni, nous vous proposons d'avancer de quelques salles dans la halle sud pour un échange avec l'artiste congolais Sinzo Anza autour de son œuvre Acte 3 du projet d'attentat contre l'image.
Bonjour. Alors, ça s'appelle Acte 3 du projet d'attentat contre l'image, qui s'appelait à la base projet d'attentat à l'image, mais après, par la suite, il y a eu des erreurs dans les retranscriptions qui font que, bon, maintenant, ça s'appelle projet d'attentat contre l'image plutôt. Et donc ça, c'est un projet pour lequel je travaille en trois étapes. Parce que dans ce projet, en fait, je pose le Congo, enfin le Congo, la République démocratique du Congo, mais plus loin symboliquement, donc tout cet espace-là d'Afrique centrale, comme une image qu'on peut déduire de différentes images.
Ce qu'il faut dire, c'est que les masques et les bibles, en fait, sont reliés à la fois par une chaîne et à la fois par un fil qui représente un peu le son. C'est une bande son aussi symbolique, c'est
Absolument.
Ça ? Et du coup, on a l'impression qu'ils sont tous liés très fortement. Ils sont tous attachés les uns aux autres. et on pourrait presque voir un portrait un peu allégorique ou un portrait mystique ou religieux du Congo avec la pluralité de ses influences, en fait. C'est un petit
absolument.
Peu...
Absolument. Et donc après, là, c'est... Enfin, c'est une interrogation justement de l'espèce de brouille culturelle dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, qui est après c'est une question qui se pose dans beaucoup de pays qui ont été colonisés. C'est que il y a une espèce de brouille de perte de repères, de pédales, et en fait ça effectivement c'est une sorte de représentation justement de cette espèce de brouille dans laquelle on se trouve. Quand je suis arrivé ici, par exemple, beaucoup de gens me demandaient si ces masques étaient anciens. C'est une question purement occidentale, ça, de savoir si un masque est ancien. Parce qu'en fait, les masques qui ont été collectionnés ici en Europe et qui sont anciens plutôt, c'est des masques qui ont été sortis du circuit et donc de leur vie de masques localement. Donc c'est pour ça que, bon, c'est des masques anciens, mais localement, les masques... La plupart du temps, ils servaient, on leur demandait des choses, si les masques ne répondaient pas, si l'esprit qui était censé habiter le masque ou le fétiche ne répondait pas, on détruisait le masque, le fétiche, on s'en débarrassait, on passait à un autre dont on supposait qu'il serait beaucoup plus attentif, beaucoup plus généreux. Et la pratique de la foi aujourd'hui dans les religions, dans les églises chrétiennes, et pareil, c'est qu'en fait on change constamment d'église à partir du moment qu'on n'obtient pas de satisfaction à ses besoins matériels. Et pour moi, c'était intéressant justement en interrogeant cette instabilité-là, de voir ce que cela disait de la construction cette fois de notre société. Et ouais, voilà.
Une tour de vie où la timidité malheureuse du jeune homme attendit sa mort.
Une bande son, et on entend des informations, des spots d'informations qui sont issus de journaux. Et du coup, je me demandais aussi le rapport entre ces informations, ces médias et la religion. En fait, dans quelle mesure ils peuvent être mis en rapport et comment vous voyez un peu le lien qui peut exister entre les deux ?
Alors, moi, j'ai choisi essentiellement dans le son, il y a des textes de moi, des textes de fiction qui sont des textes sur. Il y en a deux sur l'histoire récente du pays et d'autres, un troisième qui lui porte sur des éléments de culture précoloniale. Et puis les autres sons, c'est des sons d'archives. Qui porte pour la plupart sur l'instabilité politique, économique et sociale qu'il y a eu récemment au Congo. Et puis il y a des prédications, sinon, c'est-à-dire des sons que j'ai pris dans les églises, en fait. Et l'idée, en fait, effectivement, en mettant tous ces objets ensemble, c'est d'aborder justement la question, l'image ou l'utopie du royaume des cieux, et en fait comment cette utopie se traduit dans les rapports et dans l'histoire récente du pays, dans comment est-ce que les gens ont vécu cette histoire récente du pays, et comment ils se posent vis-à-vis du Congo qui est souvent perçu comme un espace paradoxal. Où la vie des gens, dans la vie des gens, le pays est un enfer, c'est invivable complètement. Et dans ce qu'il est pour lui-même, c'est-à-dire dans sa nature, sa faune, sa flore, son hydrographie, tout ça, c'est une espèce de paradis. Et donc voilà, c'est tout ça que je voulais en fait capturer dans cette installation.
Et vous le disiez aussi, vous êtes aussi écrivain. Et au Congo, comment ça se passe ? Est-ce que vous arrivez plus à être visible sur la scène littéraire ou sur le niveau de la création plastique ? Enfin, venir en France, pour vous, c'est une occasion de créer. Est-ce que vous pouvez le faire au Congo aussi bien ? Comment ça se passe à ce niveau-là ?
Ouais, alors moi, je travaille essentiellement au Congo. Mon travail est à la base littéraire, effectivement. Et même ça là, c'est en fait cette installation là, c'est pour moi c'est un espace littéraire avant tout. Et en fait, au Congo, effectivement, on a des problèmes de... Il n'y a pas de vie littéraire vraiment comme telle. Il n'y a pas une vie littéraire assez solide. Il y a une précarité aussi importante de ce côté-là. Et puis, dans mon cas, par exemple, je ne publie pas au Congo. Donc, ça veut dire que mes textes ne sont pas vraiment disponibles au Congo. C'est à travers, justement, ce type d'espace, ce type d'objet, que, finalement, mon travail d'écriture peut être disponible au Congo. Ouais.
Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Shinzo Anza, et on invite nos auditeurs à venir voir vos œuvres aussi ici à l'IAC. Votre œuvre y est vraiment mise en valeur, très bien mise en valeur, je trouve. C'est un plaisir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour finir, nous abordons avec Charlotte Morel, puis Marion Robin et Léonore Panot-Zavaroni, les questions relatives à la mise en espace, à l'organisation et la cohabitation des artistes, mais surtout des œuvres au sein de l'espace d'exposition.
Et justement, d'avoir autant d'artistes différents, c'est quand même un enjeu aussi au niveau du commissariat, de l'exposition, de savoir un petit peu comment on organise tous ces artistes qui ne se connaissent pas forcément, qui créent une œuvre aussi, certains spécialement pour l'occasion. Donc il faut arriver à jongler avec tout ça, et c'est chaque fois une expérience, j'imagine, assez différente et aussi... intéressante.
Oui, d'autant plus que pour la plupart, les artistes ne se connaissent pas entre eux, effectivement, qu'ils sont assez jeunes et que les espaces de l'Institut sont extrêmement modulables, mais ils sont ce qu'ils sont. Enfin, on a 1200 m² d'exposition, donc pour 20 artistes, ça fait un ratio qui n'est pas gigantesque. Donc ça fait des petits formats un peu de box, en fait, comme on les connaît dans certaines autres manifestations d'art contemporain. Et certains artistes, en fonction des projets, qui sont souvent des productions faites pour l'occasion, enfin pour cette invitation-là, les espaces sont attribués un peu en fonction des projets et pas nécessairement des envies, des désirs des artistes de cohabitation ou de promiscuité entre leurs œuvres. Il y a vraiment des raisons techniques, d'acoustique, de spatialisation aussi. Une installation monumentale, par exemple, ne peut pas être dans un tout petit espace. Donc il y a toutes ces contraintes-là. Et en dehors de ça, le projet lui-même, puisque le dénominateur commun de cette exposition, c'est vraiment le fait d'avoir affaire à de jeunes créateurs. Les problématiques, les thématiques, les formats même des œuvres proposées sont parfois très, très dissemblables. Donc difficilement... ils se font pas forcément d'écho ou pas forcément mis en dialogue, donc la difficulté, c'est quand même que ça tienne en tant que format d'exposition pour le visiteur, que ça ait une autonomie pour chacun des artistes et en même temps une mise en rapport intéressante, que ça fasse un peu fructifier l'émulation du travail de groupe, quoi.
Raccroche tout ça, c'est insupportable.
Du coup, vous connaissiez pas avant de faire cette collaboration qui n'était pas vraiment décidé. En fait, c'est une collaboration qui s'est faite en arrivant ici. Vous avez découvert que vous allez partager l'espace. Et du coup, ça a bien marché, j'ai l'impression, quand même, dès le début. Enfin, vous avez vu que vos œuvres allaient pouvoir s'alimenter, apporter du sens l'une à l'autre.
Dire un truc, parce qu'en fait moi ça m'a aidé de savoir que j'étais dans la salle avec Marion, à vrai dire. Je l'ai su à un moment où il a fallu que je repense ma pièce, parce que pour des contraintes techniques et de sécurité, j'ai pas pu faire ma première proposition, et en fait, une fois que j'ai su que j'étais dans cette salle où Marion avait été mise après plusieurs changements, je crois, d'un coup, j'avais quand même beaucoup plus de concret pour penser et j'étais beaucoup plus sereine. Donc, quelque part, ça a déjà commencé là, en ce qui me concerne.
Et de mon côté, c'est vrai que les choses se sont faites petit à petit, mais au bout d'un moment, j'ai su qu'on allait être ensemble et partager l'espace. Et je suis très contente qu'on soit ensemble, qu'on puisse, parce que c'est vrai que c'est des œuvres qu'on ne voit pas séparément, quoi. Quand on est dans l'espace, on voit tout en même temps, et c'est ce que je pense qui est intéressant, c'est-à-dire qu'elles se répondent aussi. Finalement, les travaux se sont rencontrés avant qu'on se rencontre nous. C'est peut-être un bon indice, quoi, disons, au niveau du travail.
Quelque part, c'est ce que je disais à l'équipe des médiatrices, t'étais pas là, mais je trouve que en fait, même ils jouent ensemble, quoi. Enfin, il y a un truc de c'est drôle, quoi, ces deux pièces ensemble, parce que c'est aussi, il y a un côté hyper antagoniste entre la quoi, la matérialité, quoi. C'est, enfin, c'est donné, c'est des mesures exactes. Et puis en fait, non. c'est au moins deux fois plus grand avec le miroir. Et du coup, ouais, elles se débrouillent très bien sans nous, les pièces. J'ai l'impression.
Oui, c'est intéressant cette idée de pièces qui se débrouillent sans vous, surtout avec les LED, mais avec le reste. Mais du coup, comment vous vous voyez par rapport à ça ? Vous êtes plutôt, vous sentez plutôt comme des, je sais pas, des déclencheurs d'une situation. Vous êtes là par rapport au spectateur. Est-ce que vous avez envie de le laisser se faire surprendre par quelques éléments ? Est-ce que vous avez une idée un peu de ce qu'il peut ressentir ? Et ou est-ce que vous préférez justement cette idée que les pièces vont créer la surprise, vont créer la rencontre ? Aussi à chaque fois.
Mais disons que je pense qu'on peut pas anticiper non plus tout, c'est-à-dire que le visiteur il fait ce qu'il veut, c'est lui qui décide. Et moi je pense que tous les visiteurs sont extrêmement singuliers dans leur regard, dans leur approche de l'espace, etc. Donc ce qu'il y a c'est que moi ce que j'espère c'est qu'il soit valorisé quelque part, que sa visite soit valorisée. Et que finalement c'est une adresse réelle à son passage ici, donc c'est ça que je trouve qui est motivant, en tout cas moi c'est ce qui me motive dans les projets que je peux faire, c'est d'anticiper cette visite et de la rendre unique aussi, parce que finalement les choses elles se reproduisent jamais exactement comme elles le sont la première fois. Et je pense que je pense que c'est là qu'avec Eleonore aussi on accorde une attention particulière à celui qui passe par là. Et ça peut être un enfant, un vieux monsieur, un mec avec les mains dans les poches. Et voilà, et on s'adresse à tous.
Oui, moi non plus, j'aurais pas la prétention d'avoir des attentes en fait vis-à-vis du visiteur. Et c'est vrai que, bah, principalement avec la correspondance ouverte, ça me plaît que de proposer une situation, de définir comme ça des éléments très précisément qui ensuite m'échappent, parce que je ne sais pas ce qui va être dit, je ne sais pas si des lettres vont arriver, parce que c'est basé uniquement sur des formes de soutien mutuel avec mes invités. Et ça, c'est important, et je pense que c'est ce qui fait... que ce qui peut donner aussi une valeur particulière et donner envie de s'asseoir et de lire. Après, si on passe et qu'on ne les lit pas et qu'on considère ça comme une forme plastique, ça me va très bien aussi. Chacun prend ses responsabilités, y compris moi. C'était important pour moi dans ce cadre d'exposition qui donc n'en est pas vraiment une, puisque comme l'appellent les curateurs, c'est... une plateforme dédiée à la jeune création, donc plutôt quelque chose de l'ordre de la foire, où on est comme ça exposé les uns à côté des autres sans forcément qu'il y ait de dialogue. Alors moi ça me plaît beaucoup du coup que nos pièces dialoguent avec Marion, parce que là ça fabrique une autre proposition, et je trouve que là c'est une vraie proposition curatoriale, mine de rien. Et dans ce contexte là moi ça m'intéressait de convier d'autres personnes, bon, parce que je travaille souvent comme ça aussi, et que c'est important de, parce que personne travaille seul, et moi j'aime rendre visible ce qui entoure, quoi, mes gestes, et donc c'est important à ce moment-là plutôt que de penser, je sais pas, quelque chose. En fait, c'est important que je ne sois pas seule et que je fasse place, en fait, place aux autres, place aux visiteurs, qui du coup devient aussi un des objets de ma pièce, mais comme Marion, puisqu'elle le recentre dans l'espace.
Dans les sculptures, quand tu frappes un visage, quand ça s'est fait, je sais pas, chez le pharaon, quand tu changes de roi,
du coup, ça pose aussi la question de cette œuvre. Quand est-ce qu'elle se termine ? Est-ce qu'elle a un début ? Est-ce qu'elle a une fin ? Et on a l'impression de la voir même vivre, évoluer comme ça sous nos yeux. Et c'est assez fascinant. Comment tu envisages la fin de cette... Est-ce que tu penses que c'est une œuvre qui justement elle finit avec l'exposition ? Est-ce qu'après tu vas garder les lettres ? Tu vas en faire quelque chose ?
Mon envie, idée de départ, c'est de une fois que, qu'il n'y a plus de visiteurs puisqu'il n'y a plus d'exposition le 8 janvier, de réunir toutes ces lettres et de les compiler dans une publication qui sera auto-éditée, je pense, et à, 300-500 exemplaires et disponible en librairie, à vrai dire. Peut-être, en fait, je vois ça comme cette exposition fabrique une œuvre qui existera après coup et qui sera ce livre, quoi. Donc après, il y a tout un travail de qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Parce que ce que je n'ai pas dit et qui fait aussi écho avec la pièce de Marion, dans la mesure où elle convoque le personnel de l'IAC, c'est que les lettres, lorsqu'elles arrivent ici, elles passent par l'assistante de l'administrateur qui ensuite la donne à Magali, qui est la commissaire assistante, et qui ouvre les lettres, les documente, les scanne, ensuite les remet au personnel de médiation, qui les remet au personnel d'accueil, qui les remet au personnel de salle et qui les dispose dans la salle au rythme de leurs arrivées plus ou moins quotidiennes. Donc voilà, il y a cette documentation de toute façon inhérente au processus. Et toutes ces petites mains aussi qui amènent un deuxième niveau d'intervention au niveau de la correspondance, puisqu'il y a mon réseau de l'amour, mais il y a aussi toutes les personnes avec qui je travaille concrètement là et qui font que cette proposition peut exister. Donc les commissaires, l'assistante administratrice, l'équipe de médiateurs, etc., qui sont conviés à écrire aux visiteurs et donc à propos de leurs intentions intenses. Et donc pour moi, c'est aussi une pièce autoréflexive, puisqu'elle invite les personnes qui travaillent ici à être un peu clair, ou en tout cas proposer quelque chose de leur vision.
L'exposition Rendez-vous 2017 est donc visible jusqu'au 7 janvier à Villeurbanne. Vous pourrez y retrouver, chers auditeurs et chères auditrices, les œuvres des artistes interrogés, mais également toutes celles des 17 autres créateurs dont vous avez pu entendre des extraits sonores pendant cette émission, à savoir Amélie Giacomini et Laura Célise, Anne Le Trotteur, Duniski Martin, Nathalie Muchamad et Thomas Turley, pour les extraits sonores que vous avez pu entendre. Vous retrouverez l'agenda des événements autour de l'exposition sur le site de l'IAC, ainsi que les publications et expositions des artistes sur leur site personnel, en lien dans la description de l'émission. Je tiens à remercier très sincèrement les artistes, ainsi que Charlotte Morel et toutes les équipes de l'Institut, pour leur temps accordé, leur enthousiasme de création et de transmission, pour l'émotion et les interrogations qu'ils nous offrent, pour leurs mots, y compris ceux que les contraintes du montage nous ont obligés à couper. Merci pour tout cela donc, et pour nous donner à voir et à entendre l'art se conjuguer au présent.